Le journal Noéla Luzi Tukabambi.
Le gouvernement congolais prend l'engagement de préserver la forêt congolaise. La conférence internationale sur les modèles de gestion et des mécanismes de financement alternatifs pour l'utilisation durable des forêts de la RDC a pris fin hier à Kinshasa. Le droit de la population autochtone a également été évoqué au cours de ces travaux. Une rencontre entre le président de la République et les parlementaires. La date de cette rencontre n'est pas encore fixée, mais l'on sait déjà que les députés et sénateurs par groupes provinciaux devront parler avec Joseph Kabila des problèmes et autres situations de leurs provinces respectives. La journée internationale de lutte contre la torture, c'est demain 26 juin, mais les activités liées à cette journée ont déjà démarré à Kalemie au Katanga. Les détails dans ce journal. Bonjour à tous. Le gouvernement congolais s'engage à préserver la forêt congolaise. Engagement pris à l'issue hier de la conférence internationale sur les modèles de gestion et des mécanismes de financement alternatifs pour l'utilisation durable des forêts de la RDC. L'engagement des autorités congolaises se justifie par le rôle essentiel des forêts dans la régulation du climat dans le monde et aussi en vue de garantir le droit des populations autochtones. Ces travaux de deux jours ont connu la participation de représentants des bailleurs de fonds, des représentants de la société civile internationale et nationale, ainsi que des représentants des secteurs publics et privés. Qu'est-ce que le gouvernement pense faire concrètement par rapport à cet engagement? Réponse du ministre congolais de l'Environnement et Conservation de la Nature, José Ndundo Bonongue, est au micro de Jacques-Yves Molima.
Nous avons fait prendre par le Conseil des ministres des décrets qui ont été signés par le Premier ministre. Tous ces décrets ont un but, c'est rendre applicable la loi, le code forestier qui a été pris en 2002 et qui était resté inappliqué. Toutes ces mesures vont permettre maintenant une gestion transparente, participative des forêts. Les moyens qui sont mis par la communauté internationale en contrepartie de la préservation de cette forêt, l'arrivée de ces ressources permet la réhabilitation des infrastructures qui sont directement liées à la vie des populations locales, autochtones.
La question du droit de la population autochtone était le cheval de bataille de la société civile à ses assises. Selon le coordonnateur national du réseau Ressources naturelles, il importe que la population autochtone soit sensibilisée sur tout ce qui est dit dans cette conférence. Au micro de Jacques-Yves Molima, Joseph Boliabokao souligne qu'il faut par ailleurs que le mécanisme de rétrocession soit mis en marche par le gouvernement pour que la population bénéficie de la richesse de sa forêt. On l'écoute.
Les communautés, les populations autochtones pygmées qui vivent de forêts ne peuvent pas vivre en dehors de tous ces débats. Il faudrait une certaine sensibilisation. Il faut démarrer avec l'information.
Mais sur le terrain, les sociétés qui arrivent coupent des bois, toute cette richesse-là s'en va et la population reste presque démunie.
Les compagnies reconnaissent qu'elles payent quelque chose à l'État. C'est un problème que le moyen n'arrive pas. C'est dire qu'il y a un blocage quelque part. Il faut définir ces mécanismes-là et il faut les mettre en route.
Une autre question passée au peigne fin par les participants à ces assises de Kinshasa, le reboisement des forêts congolaises. Cette question a toujours suscité des protestations de la part des autochtones qui accusent toujours les entreprises d'exploitation forestière. Pour ces populations vivant le long des forêts, les entreprises forestières ne remplissent pas leur part de charge dans le reboisement de la forêt exploitée. Mais la secrétaire générale de la Fédération des industriels du bois à RDC affirme, elle, que les secteurs privés payent les taxes de reboisement. Malgré cela, ces entreprises privées s'engagent désormais à reboiser la forêt. Madame Françoise Van Den Vien est au micro de Jacques-Yves Molima.
Il y a déjà le fait que quand vous ne prenez qu'un arbre tous les deux terrains de foot, des actions de reboisement en forêt ne sont même pas nécessaires. D'autre part, nous payons 4% sur tous nos bois que nous exportons en grumes pour le reboisement. Et nous payons ça d'une façon très officielle. Et c'est au Service national de reboisement qui doit recevoir effectivement la rétrocession de cette taxe pour qu'il puisse avoir des actions. Mais malgré ça, nous avons quand même convenu avec le ministre que chacun de nous va passer aux actions de reboisement nous-mêmes, malgré le fait que nous payons la taxe de reboisement. Donc on paye et on reboise. Donc je ne sais pas si vous payez et le loyer et vous construisez la maison, c'est la même chose.
Okay. Plénière hier au Parlement à Kinshasa, les deux chambres parlementaires ont voté en même temps deux rapports de textes des lois. Il s'agit des rapports relatifs à l'examen de la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, de la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH-Sida et les personnes affectées. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont donc harmonisé leur vue sur ces différents textes de loi. Ces derniers attendent désormais leur promulgation par le chef de l'État. Chef de l'État Joseph Kabila qui projette justement une rencontre avec les parlementaires, information confirmée par le ministre chargé des relations avec le Parlement. Mais la date de cette rencontre reste encore à déterminer. Les parlementaires et le ministre chargé des relations avec le Parlement soutiennent qu'il s'agit d'une rencontre informelle au cours de laquelle députés et sénateurs vont soumettre les préoccupations de leur province au chef de l'État. Jeff Ngoy.
Instaurer une journée parlementaire pour échanger avec les élus du peuple sur des problèmes récurrents à la base. Tel est l'objet de cette audience que le chef de l'État entend accorder aux parlementaires par groupes provinciaux. Contacté, le ministre chargé de relations avec le Parlement, professeur Lumanu Sefu, confirme qu'il s'agit là du début d'une tradition entre le chef et les élus. À la question de savoir pourquoi une telle rencontre, alors que les parlementaires ont l'habitude de rapporter en plénière les réalités de leur province à l'issue des vacances parlementaires. Quels sont les dessous des cartes de cette audience? La réponse est sans équivoque. Le président de la République reçoit qui il veut en tant que garant de la nation. Les parlementaires ont des préoccupations de leur province. Il faut que le chef de l'État les entende, affirme Lumanu. Même son de cloche du côté des parlementaires, dont certains se sont déjà réunis pour élaborer par province leur cahier des charges. Ils encouragent cette initiative et s'impatientent. Le député national Thomas Louak a dit qu'il n'y a pas d'inconvénient que le chef de l'État dialogue avec les parlementaires pour être au courant de leurs préoccupations. Un autre député, Lumeya Malegi, précise que le cahier des charges de sa province du Bandundu concerne notamment le social et les infrastructures. Cette rencontre est informelle et ne viole pas la Constitution, dit-il.
Restons à Kinshasa où près de 11 000 tonnes de matériel chinois sont arrivées dans la capitale ce mardi. Ce troisième lot est constitué des grands camions compacteurs, bulldozers, camions-citernes, pelles chargeuses, niveleuses et camions-grues. Et ce n'est pas le dernier lot, signale le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Pierre Lumbi. D'autres doivent arriver encore. Pour rappel, le premier lot constitué de 14 000 tonnes était arrivé le 9 juin dernier, suivi du deuxième lot de 12 000 tonnes de matériel. Ces matériels des entreprises chinoises serviront à réhabiliter, construire et moderniser les infrastructures en RDC. Imana Ingulu, rapporteur de la Haute Autorité des médias, est détenu illégalement depuis vendredi dernier par les services spéciaux de la police. C'est une dénonciation de son parti, le MLC. Le secrétaire général intérimaire du MLC ne comprend pas que pour une affaire d'accident de circulation, les services de sécurité de la République puissent le retenir pendant plusieurs jours. Thomas Louaka, secrétaire général ad intérim du MLC, au téléphone des Innocents Olenga.
Le vendredi dernier, M. Imana Ingulu a eu un accident de circulation au niveau des ronds-points Kimpwanza ici à Kasavubu. Et après cela, il y a une altercation avec l'autre automobiliste. Des éléments de la police d'intervention rapide sont arrivés au rond-point et l'ont appréhendé. Ils l'ont amené chez eux là-bas. Quelques temps après, nous apprendrons qu'il a été transféré de la pire à Kinmazière, au service spécial de la police. Et nous sommes en contact avec les autorités de Kinmazière qui nous ont dit qu'il s'agissait d'un simple accident, qu'ils allaient tout faire pour pouvoir le libérer. Mais depuis vendredi, toutes les démarches que nous avons entreprises n'ont pas abouti. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai signé ce communiqué pour annoncer à l'opinion et au gouvernement que M. Imana Ingulu est détenu de manière arbitraire par les services de sécurité de l'État.
Du côté de Kinmazière, on s'est réservé à tout commentaire sur cette affaire. Début hier de la deuxième session du programme santé des 9e Fonds européens de développement FED à Kinshasa. Ce projet de la Commission européenne appuie le secteur de santé dans les deux Kasaï, le Nord Kivu et la province orientale. C'est un programme de 5 ans, soit de 2006 à 2011. Son financement est d'environ 90 millions d'euros. Le ministre congolais de la Santé affirme qu'il est question d'évaluer sur terrain les réalisations des 9e FED en vue de préparer les 10e. Docteur Olivier Barthès, coordinateur du programme santé des 9e FED, revient sur quelques réalisations de ces fonds au micro de René Capita.
Les actions concrètes actuellement sur le terrain, en premier lieu, c'est de la distribution de médicaments. Plusieurs millions d'euros qui sont distribués chaque année dans les quatre provinces que nous appuyons. Le deuxième élément, c'est que même si les équipements et les réhabilitations ne sont pas encore arrivés sur le terrain, nous avons les dossiers qui sont en train d'évoluer très positivement. Et donc, on peut espérer que d'ici six mois, un certain nombre de centres de santé reçoivent des équipements. Un autre élément qui est quand même très important, c'est l'appui qu'on apporte aux inspections provinciales et aux fameuses zones de santé. Vous savez qu'il y a 515 zones de santé dans ce pays. Nous apportons donc à l'administration de ces structures un appui en fonctionnement, un appui pour que les primes du personnel soient relevées.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
L'actualité en province, Mireille Boukassa part de l'Ituri en province orientale. Une banque publique devrait bientôt être installée pour la première fois à Arou, territoire situé à 260 km au nord de Bounia.
Il s'agit de la Caisse d'épargne du Congo, Kadeco. Une délégation de cette institution bancaire du district de l'Ituri séjourne depuis lundi dernier dans ce territoire pour étudier le marché. Selon l'administrateur, l'installation de cette caisse d'épargne permettra notamment de placer en compte les recettes de l'État. Notons que les différents services de l'État acheminent l'argent de l'État par route, faute de banque publique.
Au Katanga, les activités commémoratives de la Journée internationale de lutte contre la torture ont démarré depuis trois jours à Kalemie.
Si on prend vision de la Journée internationale de lutte contre la torture qui sera célébrée le 26 juin prochain, donc demain, la MONUC a réuni ce lundi, dans la matinée, les représentants des associations de défense des droits de l'homme et membres de la société civile d'une part et des officiers des FRDC et de garnison de Kalemie d'autre part. L'objectif, sensibiliser les acteurs concernés sur la gravité de la torture et renforcer les capacités des ONG de défense des droits de l'homme pour une meilleure surveillance des actes de torture dont le district du Tanganyika, François-Xavier Mbé.
La sensibilisation touche une soixantaine d'acteurs, dont 40 officiers militaires des garnisons de Kalemie. Tous les participants viennent d'être avisés sur les principales causes de pratique de la torture, telles que la méconnaissance des normes nationales et internationales, la recherche de l'aveu, l'impunité, les arrestations arbitraires et l'absence d'un état de droit. À ces causes, les discussions sur la problématique de la torture ont permis aux acteurs de déceler les principales méthodes auxquelles recourent les tortionnaires. C'est entre autres les passages à tabac, les viols et autres sévices physiques qui causent des conséquences incalculables sur les victimes. À cet effet, les participants appellent les agents de l'État chargés de l'application des lois au respect des droits de l'homme. Le séminaire, qui concerne aussi les éléments de la police nationale, ceux de l'ANR et de la Direction générale des migrations, clôture jeudi prochain ses travaux par un forum sur l'état des lieux de la torture et traitement inhumain dans les districts du Tanganyika à l'hôtel du Lac. Participent à ces travaux les autorités civiles, militaires, judiciaires, des représentants d'ONG et des étudiants. François-Xavier Mibé, Radio Kapi, Kalemie.
Vous aviez suivi sur nos antennes que le week-end dernier, les locaux de l'ONG Dutch International étaient fermés sur demande du gouverneur de la Banque centrale du Congo.
Cette institution d'octroi de crédit aux populations démunies est opérationnelle en RDC depuis le 5 mars 2007 et elle est présente dans trois villes, à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Goma. Selon le chargé des renseignements et informatiques de Dutch International, son institution est surprise de cette fermeture. Murphy Matabaro affirme que l'ONG Dutch International était en plein processus d'acquisition d'agrément lorsqu'elle a été sommée de fermer. Murphy Matabaro est au micro de Jacques-Yves Moulima.
La Banque centrale nous a envoyé le 15 novembre 2007, une lettre de demandant à l'ASBL de finir avec le système de transaction bancaire que nous étions en train de faire. Nous l'avons exécuté, nous avons suivi leurs conseils et nous avons fait ce qu'ils nous avaient dit.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faisiez?
Dutch fonctionnait avec l'argent de ses membres. C'est-à-dire, il y avait des membres qui déposaient leur argent. Après 31 jours ouvrables, ils retiraient tout cet argent avec 37% d'intérêt.
Vous ne trouvez pas que c'est assez?
Non, c'est pas assez. On peut même aller au-delà de 37.
C'est peut-être à cause de cela qu'on vous retire la confiance et on pense que vous risquez un jour de tomber un peu comme autrefois Bindo et d'autres institutions.
Ce n'est pas à cause de cela que les autorités ont fait ça. La banque nous avait demandé d'abord de continuer à faire le retrait de l'argent de nos membres en attendant l'agrément. C'est ce que faisait Dutch. On remettait l'argent de nos membres. Au mois d'avril, nous avons introduit une lettre de demande d'agrément. vraiment, qu'on ne t'a jamais répondu. Nos documents sont entre les mains du gouvernement de la Banque centrale. Nous attendons l'agrément venant de la Banque centrale.
En réaction, la Banque centrale, dans un communiqué de presse déposé à Radio Capi, souligne que l'arrêt des activités de Deutsche International se justifie par la réalisation illégale des opérations de banque par cette ONG. Pour la BCC, cette mesure s'inscrit dans le cadre de la protection de l'épargne du public et de la préservation de la confiance restaurée dans le système financier national.
En dehors de nos frontières, le régime au pouvoir au Zimbabwe a maintenu hier le second tour du scrutin présidentiel au vendredi 27 juin. Le pouvoir zimbabwéen a ignoré l'appel de l'ONU à annuler l'élection. Le chef de l'opposition, lui, a demandé l'envoi d'une force militaire avec un rôle de maintien de la paix. Par ailleurs, les dirigeants d'Afrique australe se réunissent ce mercredi au sommet extraordinaire au Swaziland sur la situation au Zimbabwe. C'est l'annonce qu'a faite hier la présidence tanzanienne. Terminons en page sportive avec un match important hier au championnat de Kinshasa. Darin Club Motema Pembe a battu V Club sur le score de 2-1. C'est leur deuxième rencontre cette année. Lors de la première confrontation, V Club avait gagné par 1-0. C'est par cette note sportive que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.radiocapi.net.